prier. Mais la première des choses à faire, c'est d'obéir, c'est de venir dans sa présence, dire « Seigneur, oui, je reconnais que dans ta présence, sous ta protection, alors je peux te laisser intervenir. » Amen. Claude, viens.
Remarqué, non? Là où on est, il vient nous chercher. Seigneur, nous inclinons réellement devant toi. Seigneur, nous sommes venus pour te célébrer et déjà nous sommes bénis. Seigneur, nous sommes venus t'apporter notre reconnaissance, nos acclamations, la joie de nos cœurs, la joie de goûter la délivrance que tu nous as accordée aux uns aux autres, de cette reconnaissance et de la joie de proclamer que tu es le Dieu vivant qui restaure, qui guérit, qui rétablit. Merci Seigneur, oui. Amen. Alors je le dis, c'est vrai, on va vivre une superbe journée. On va accompagner les jeunes qui ont décidé de se faire baptiser et ainsi de manifester publiquement leur engagement à suivre le Seigneur. Je regarde par là parce que généralement, ils sont par là. Ils sont où? Levez la main. 1, 2, 3, 4. Et puis? Ah, quand même, Samy. Pas la peine de te planquer derrière le machin, là. Alors, eux, ils ne sont pas complètement à l'aise à l'heure qu'il est, parce qu'on va les lâcher tout à l'heure face à la foule. Ah, fais-moi les malins, là. Non, c'est vraiment un moment de joie, et on va partager ces moments. Ayant eu connaissance des témoignages de chacun d'eux, je peux vous dire que cet après-midi, il faudra vraiment que chacun de nous soit particulièrement attentif parce que nous allons vivre des moments qui vont être forts. Moi, je dis amen parce que je sais de quoi je parle. Vous. Voilà. Le Seigneur va les conduire sur un chemin nouveau et c'est un chemin où on part à la découverte de ce que Dieu a préparé. Alors bon, je vais parler un peu pour eux, mais si je me souviens bien les chemins que chacun de nous a parcourus, ça va nous rappeler certaines choses, et peut-être au passage, on pourra se poser la question, qu'est-ce qu'on en a fait? Enfin, je ferme la parenthèse. Certains, c'est vrai, disent que peut-être je suis un peu désagréable parfois au détour du chemin quand je dénonce telle ou telle chose. Mais je me souviens du Seigneur Jésus où ses disciples, par exemple, avaient été sollicités pour délivrer quelqu'un qui était mal en point et ils n'ont pas réussi. Seigneur Jésus a regardé ses disciples et qu'est-ce qu'il leur a dit? Attendez, je vais vous expliquer, il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi, je vais vous encourager à vraiment rentrer dans cette puissance de l'Esprit qui va arriver et vous allez voir, on va réussir. Non. Le Seigneur, à cet endroit-là, il leur dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Il a parfois des... Le Seigneur Jésus, il a parfois des comportements bizarres. Hein. Il casse un peu le moral des troupes. Hein. Non mais, quand même, Seigneur, tu es venu pour nous sauver, nous restaurer, nous donner un avenir et tout ça. Et là, au détour du chemin, là. Bon, je cite que ça, mais il y a plusieurs fois où, bon, je ne parlerai pas de quand il s'adresse aux pharisiens ou à d'autres, mais c'est difficile. Ou quand il va dire à Pierre, arrière de moi Satan. Bon, c'est sûr qu'il n'est pas sorti de là vraiment stimulé dans sa foi, mais Quand Jésus parle, il faut resituer les choses dans un contexte et le prendre dans son ensemble et savoir que le Seigneur ne parle pas uniquement de grâce, d'amour, de paix, ça, ou il ne parle pas de jugement, de correction, tout ça. C'est un ensemble de choses qu'il faut resituer dans un contexte précis et par rapport à une marche précise qu'il vit avec ses disciples. Alors, c'est vrai que quand on vient de se faire baptiser, on va en rentrer dans une marche avec le Seigneur. Et c'est vrai aussi, on se dit qu'il a préparé des choses d'avance, oui, d'accord. Mais pour les discerner, les comprendre ou les faire nôtres, ce n'est pas toujours évident. Et mais le Seigneur vient à notre secours pour nous aider dans nos hésitations. Par exemple, il va dire dans Matthieu 7, du verset 7 à 11, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ou s'il demande un poisson, lequel, pardon, de vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? C'est rassurant, non ? Ça fait du bien. Ça, c'est un bon christianisme, hein ? Ça, c'est des versets sur lesquels on revient régulièrement, parce que là, c'est une bouffée d'oxygène, ça nous fait du bien. Voilà. C'est un christianisme que j'appelle confortable. Cependant, Jésus poursuit, hein, il ne s'arrête pas là en chemin, il va poursuivre dans son enseignement ou cette conversation qu'il a avec les gens. Et puis, dans vos Bibles, vous remarquerez, le titre du paragraphe, c'est « La règle d'or ». Et la règle d'or, c'est « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, c'est la loi et les prophètes. » Ça ressemble à ce qui a été dit et que l'on a médité la dernière fois. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et Jésus, il continue au verset 13, et il va dire, après avoir encouragé, celui qui cherche va trouver, etc., si tu frappes, on t'ouvre, etc., et il va dire, mais verset 13, entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte et spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. On ne sait pas dans quoi ils entrent, mais ils entrent. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Là, encore une fois, on vient de lire un texte qui est particulièrement encourageant, et quelques versets plus loin, le Seigneur nous casse le moral. On était dans un christianisme qui était vraiment sympa, hein, si tu cherches, ben, tu vas trouver. Si tu frappes, ben, on va t'ouvrir. Si tu demandes, ben, tu vas recevoir. Parce que, tu sais, ton père, il t'aime tellement qu'il ne peut pas te donner n'importe quoi. Ou les arêtes du poisson. Non, il va tout te donner. Et, et puis là, il nous dit, ben, entrez par la porte étroite. Alors là, ça devient un peu le christianisme étriqué, hein, le christianisme, je ne sais pas, on dirait que Jésus, il brise l'enthousiasme du départ et les bonnes intentions. Et là, vous dites, vous savez, c'est comme si vous alliez rentrer dans un entonnoir. Et le goulot, il est assez étroit. Alors, bien sûr, c'est comme ça que j'imagine qu'il y a deux catégories de chrétiens. Comme dit la parole de Dieu, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a le chrétien spirituel, hein, et puis il y a une deuxième catégorie, c'est le chrétien charnel, point. Vous n'avez jamais vu dans la parole de Dieu de catégorie intermédiaire. Hein. Si, il y a une catégorie, mais l'ont tout de suite prévenu, c'est les Tiédas. Et ceux-là, ma foi, on ne va pas s'arrêter sur leur statut, mais vous le trouverez bien. Mais en fait, le christianisme se divise en deux catégories de personnes, de chrétiens. Ce sont ceux qui pensent que Jésus les a sauvés pour être bénis en tout temps. Et là, on recherche, on parle de la grâce et encore de la grâce. Et on va se polariser sur tous les textes, les passages, les histoires qui nous parlent de l'amour de Dieu inconditionnel, extraordinaire, persévérant, patient, lent à la colère, riche en bonté, etc. Et tout ça, ça fait partie d'un catalogue de grâces qui sont là en réserve pour chacun de nous. Et puis on ne sort pas de là. Et quand arrive le jour de l'épreuve, on ne sait plus où on en est. Parce que ça ne correspond plus à ce qu'on s'attendait à vivre et à recevoir de la part du Seigneur. Et puis il y a l'autre catégorie de chrétiens. Ce sont ceux qui savent pourquoi ils avaient besoin de pardon et qui ont parfaitement conscience du prix que Jésus a dû payer pour qu'aujourd'hui ils soient pardonnés et libres. Cette catégorie-là, elle ne passe jamais beaucoup de temps à discuter avec le Seigneur pour connaître sa volonté. Et celle que le plan que le Seigneur a préparé pour eux. Ils hésitent peut-être à un moment donné, mais se souvenant d'où ils viennent, sachant comment le Seigneur les a pardonnés et de quoi il les a pardonnés, eh bien, quand ils envisagent l'avenir, ils ne l'imaginent pas avec crainte et tremblement, parce qu'ils savent qu'il y a un prix qui a été payé pour eux. Et s'ils ne comprennent pas aujourd'hui ce qu'ils sont en train de vivre, ils ne se font pas de soucis parce qu'ils savent que le Seigneur a payé pour qu'ils puissent comprendre et avancer avec assurance. Ceux qui ne connaissent pas l'amour du Seigneur, eh bien, ils me font penser à ces gens qui, dans la parabole, eh bien, ils avaient reçu la parole de Dieu avec beaucoup de joie, mais ils n'avaient pas de racines en eux-mêmes. Aussi, quand l'épreuve est arrivée, que le soleil s'est levé, eh bien, ils ont été balayés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas cette puissance de vie suffisante en eux pour se dire « je ne pige rien, mais je sais que Dieu me tient dans sa main et qu'il veillera sur moi ». Vous comprenez ? Il y a ces deux tendances-là dans l'Église de Jésus-Christ. Paul dira dans 2 Corinthiens 5, 14, tu l'as pas ce verset, il dit « Mais l'amour de Christ nous étreint ». C'était ce qui motivait toute sa vie. Il a traversé des moments extrêmement terribles. La prison, les naufrages, lapidés, etc., etc. Mais lui, il est capable de dire « L'amour de Christ m'étreint ». Vos versions disent « nous presse », mais le texte original dit « nous étreint ». C'est quelque chose qui t'emprisonne et qui ne peut pas te laisser douter trop longtemps. Et ça, c'est une force extraordinaire. Et puis encore, dans Romains 8, au verset 28 à 39, il dit « nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? On le connaît bien ce verset, n'est-ce pas ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim, la nudité, le péril ou l'épée ? Mais attends, si c'est la grâce, pourquoi il y a tout ça ? Ben oui, ben parce que dans la grâce, tu peux passer par là et tu peux vivre ces passages-là. Mais le Seigneur nous dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oh là 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 là. Ça, c'était peut-être pour le temps de Paul. Non, non. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la colonne vertébrale de notre christianisme. Si nous imaginons une grâce à notre sauce, je crois qu'on va faire fausse route. Mais au milieu de cette grâce dont Paul est en train de parler, eh bien, il nous parle de la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, de la nudité, du péril, de l'épée. Il parle de tout ça alors qu'il est en train de raconter toute la dimension extraordinaire de Dieu et de sa patience à notre égard. Nous aimons tellement ces versets qui nous parlent de ce christianisme rempli de cette bonté de Dieu, ce christianisme confortable. La nature de l'homme, ben, elle refuse les contraintes, elle les refuse. Nous aimons avancer dans la vie sur des boulevards, des autoroutes. Et Jésus le rappelle bien, large est le chemin, parce que c'est l'aspiration profonde de notre cœur, c'est de ne pas avancer et d'aller nous mettre dans un entonnoir. Pourquoi Jésus nous parle du chemin resserré, de la porte étroite et tout ça ? C'est quoi ça ? Est-ce que ça peut motiver une vie, ça ? Est-ce que celui qui lit ces versets, il ressort ce matin en disant « Oh purée, alors je ne sais pas si tu as vu la porte ?» Moi déjà, je ne peux pas passer, même de profil. Tu vois le genre. Tu es cassé dans ton moral. Mais pourquoi le Seigneur, alors qu'il est en train de nous parler de son amour, de sa patience et de sa bonté, il nous parle de la porte étroite et du chemin resserré ? Parce que le Seigneur veut absolument nous sortir de cette vision facile de la vie où on n'accepte pas les contraintes, on n'accepte pas que le Seigneur puisse faire peser sur nous quelque pression que ce soit. Ça va de pair avec la manière dont nous interprétons l'obéissance, n'est-ce pas ? Chez les Français, c'est quelque chose, hein ? Hein ? Enfin, il y a beaucoup qui ne sont pas Français, donc ils s'en foutent, hein. Mais pas pour eux qu'on cause. Non. Si l'amour de Jésus n'est pas la motivation première qui nous pousse en avant, il ne nous reste plus qu'un christianisme de contraintes rébarbatif qui nous pousse à l'abandon. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits prieureux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Et nous la recevons tous avec joie. Sinon, on ne serait pas là ce matin, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'on en a fait ? Ils la reçoivent d'abord, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute et ils abandonnent. C'est ainsi que de temps à autre, au milieu de nous, l'un ou l'autre a choisi un autre chemin. Parce qu'il n'a pas su de quelle manière il avait été aimé. il n'a pas su de quoi Jésus l'avait pardonné, de quelle manière il l'avait libéré de ses entraves, de ce qui l'enchaînait, de ce qui l'entraînait vers le fond. Et si tu n'arrives pas à le discerner, demande au Seigneur cette grâce de comprendre de quoi tu as été pardonné. Nous disons trop facilement, Christ est mort pour les péchés du monde. Il ne te parle pas du monde, il te parle de toi. Il est mort pour quoi, le Seigneur ? Pour quelle raison il a fallu qu'il soit planté sur une croix ? Pourquoi ? Pourquoi fallait-il un tel prix pour... Mais Paul dira, l'amour de Christ, il m'étreint. Et tout ce que je peux faire, sachant de quoi il avait été pardonné, lui qui tuait les gens, les persécutait, les envoyait au cirque, et pas pour faire les clowns, pour être encorné ou déchiré par les bêtes. Tout ça, ça passait de temps à autre devant les yeux et devant les souvenirs de l'apôtre Paul. Il dit, je suis le dernier des derniers, un avorton. Je suis rien. Et Dieu a bien voulu faire de moi cet apôtre qui va annoncer à ceux qui étaient perdus le salut de Christ et sa grâce. Mais le Seigneur veut faire la même chose de chacun de nous. Il veut que tu saches de quoi tu as été pardonné. Pour que quand tu vas te poser des questions, tu dis, mais non, ce n'est pas possible que je remette en doute ma foi ou que je chancelle. Parce que l'amour de Christ, il est tellement fort et puissant que je ne peux pas me laisser aller au doute ou à la démission, ou en m'en aller, ou retourner vers ce que j'ai vomi. Ce n'est pas possible. Non, n'abandonne pas. Souviens-toi. Et si tu ne sais pas de quoi Christ t'a sauvé, même si aujourd'hui tu te fais baptiser, même si tu as déjà été baptisé, il faut que ce souvenir-là soit puissant au fond de ton cœur pour que tu saches au moment où l'ennemi se lève, je dis, moi, j'étais le dernier des derniers, mais Christ a fait de moi une des colonnes de son Église. Je tiendrai ferme, non pas parce que je suis un gaillard musclé, non, mais parce que la grâce de Dieu m'a touché et Christ a décidé, tu tiendras debout. Parce que je t'ai sauvé. Je veux que tu te souviennes de quoi tu as été sauvé. D'accord ? L'apôtre Pierre percevait bien ce danger dans l'Église. À la veille de sa mort, il laisse une recommandation de la plus haute importance. 2 Pierre 1, versets 1 à 15. Cette parole m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et je dirais, là, je le redis à chaque fois que je le lis, c'est le testament spirituel de Pierre. Après ça, il n'écrira plus à ses frères. Et il sait qu'il va les laisser parce que le Seigneur lui a révélé qu'il allait être martyrisé. Donc, c'est en pleine connaissance de cause qu'il est en train de peser chaque parole qu'il est en train d'écrire, parce que ce sont les dernières, et qu'il souhaite que ceux qui vont rester se souviennent avec précision de ce qu'il avait au fond du cœur et qu'il avait reçu de son Dieu. Simon Pierre, serviteur, c'est 2 Pierre 1, versets 1 à 15. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Il s'adresse à des chrétiens de base, comme on dit, mais il dit, tu sais, la foi que tu as reçue, c'est exactement la même que j'ai reçue. N'essaye pas d'imaginer que j'ai reçu quelques grâces excellentes qui font que je peux me situer supérieur à toi. Non, tu as reçu une foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu, non pas par des gesticulations religieuses, ça ne sert à rien, mais parce que tu t'es approché de Dieu et que tu cherches à le connaître, lui et Jésus, notre Seigneur. comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tout ce qui contribue, il vous manque donc rien. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez participants de la nature divine. Tu mesures ce qu'il raconte là ? Afin que tu deviennes participant de la nature divine. Comment ? Eh bien, déjà en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Déjà, apprends à faire le ménage chaque jour. Fais le tour de la maison et tu reconnais facilement, parce que l'Esprit de Dieu va te le montrer, ça c'est poubelle, ça aussi. Ne reviens plus pour parler des addictions, des coups tordus, des manques de pardon et tout le reste, tout le catalogue que l'ennemi a planté dans nos cœurs tout au long de notre vie jusqu'au jour où nous avons rencontré Christ, tout ça, tu le nettoies en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la science, à la tempérance, la patience. Vous ne savez pas ce que veulent dire ces mots ? Eh bien, sachez que nous avons un petit Larousse qui vous donnera toutes les indications nécessaires. On ne va pas perdre de temps à développer toutes les définitions. D'accord ? Non, mais sérieusement, hein ? Vous ne me faites pas ça, et puis après, en rentrant à la maison, où t'as mis le dico ? Vous allez sur Google, vous aurez toutes les définitions. Monsieur Google saura vous renseigner. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, ce que le Seigneur cherche, c'est que tu le connaisses. C'est tout. Si tu dois abandonner ces choses qui t'ont détruite et si tu dois te revenir de tout ce que nous venons d'énumérer, eh bien c'est pour que tu puisses connaître ces choses-là. Mais, à contrario, si tu oublies et si tu ne veux pas rentrer dans cette dimension, si tu veux marcher sur un chemin qui est plus large, eh bien, celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est l'autre christianisme qui n'est pas pétri de l'amour de Christ. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Pas de bronchage dans l'Église de Jésus-Christ. Ok ? C'est fort ça, non ? Ça fait rire personne, hein ? Pourtant, c'est une vérité fondamentale. Et vous qui vous faites baptiser, c'est une des clés de votre vie. S'il y a un texte à retenir, c'est celui-là. Avant que cet apôtre ne soit crucifié et, dit-on, la tête en bas, selon la tradition, eh bien, il a laissé un texte puissant pour que tous ses frères puissent continuer à marcher. Alors, c'est ce que on dit, oui, mais ça, c'est le christianisme de toutes les contraintes. La porte étroite, le machin, le truc, le chemin resserré, tout. Ça, c'est un peu étriqué. À quel endroit tu veux quand on trouve la joie? Le Seigneur te dit, si tu ne marches pas de cette manière-là, tu vas passer toute ta vie à broncher, à ne pas être d'accord, à contester, à dire, il faudrait, yaka, il faut qu'on, et patati, et dans l'église, et ceci, et cela. Et c'est ainsi que naissent les divisions. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, et d'une part, mais en plus de cela, vous rentrez dans la véritable dimension du royaume de Dieu, et c'est laquelle ? C'est le verset d'après qui me plaît tellement et qui plaît tellement à Nicole chaque fois qu'elle parle de la mort et de l'avenir. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Et là, tu te poses la question, où est le chemin resserré et la porte étroite? Ils ont disparu. Ça, c'est ce que le Seigneur, le chemin resserré, la porte étroite, c'est notre vision charnelle du projet et du plan de Dieu pour notre vie. Les boulevards, large et le chemin et tout ça, ça, c'est ce qu'on a envie. Mais le Seigneur, il te dit, ça, ça conduit à la perdition. Mais si tu rentres dans cette dynamique de vie où tu te laisses changer par l'Esprit de Dieu, alors ce qu'il y a devant, ce n'est pas un chemin resserré et une porte étroite. C'est que l'entrée dans le royaume des cieux vous sera pleinement accordée, pleinement ouverte. Ça dépend des versions, c'est traduit de différentes manières. Mais ça veut dire que tu ne frotteras pas tes épaules à l'embrasure de la porte. Il y aura l'espace. Tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu avec l'appréhension. Est-ce que je suis prêt? Non, l'entrée du royaume des cieux pour les enfants de Dieu, elle est large. Pour ceux qui ont marché dans cette dynamique, bien entendu. Ce n'est pas comme Paul Naref où on ira tous au paradis. Pas la peine d'insister. Et l'apôtre continue, il dit, mais voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans son corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je le quitterai subitement, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais, dit-il, j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. C'est extraordinaire, non ? Il a réuni en quelques versets toute la substance du salut, de la marche avec Christ et de cette entrée dans le royaume des cieux, large, large. Et il casse complètement cette vision étriquée du christianisme en tonnoir qui nous laisse croire que si jamais tu obéis consciencieusement ce que Christ te dit, ta vie est une vie de tristesse, privation de liberté, étriquée, t'as plus le droit de ceci, t'as plus le droit de cela. Il dit, t'as essayé d'imaginer tout ce que Christ a préparé et auquel tu avais droit? Mais quand tu lis la parole de Dieu et que tu regardes ce que Christ a réservé à ceux qu'il aime, mais c'est pour ça qu'il dit en intro, vous avez reçu une foi du même prix que la nôtre. On est tous embarqués dans le même navire. Et le capitaine, il te dit, t'es pas un galérien. T'es pas un galérien. Et l'ennemi te dit, t'es chrétien, descends dans la cale et chope ta rame. Et crac, t'es attaché à la cheville. Et si le navire coule, tu couleras avec. Elle est belle la liberté en Christ. Relisez les épîtres et ce que Jésus dit. Tu es libre, tu es affranchi. Il a préparé de bonnes choses pour toi afin que tu puisses marcher en elles. découvre-les, ne sois pas stérile. Ce qui est important dans tout cela, c'est que, sachant qu'il n'écrirait plus à ses frères, l'apôtre a veillé soigneusement à ce qu'il leur disait, comme je le rappelais. Et il met en évidence une chose qui est absolument claire dans ce texte, c'est qu'il insiste extrêmement précisément sur les qualités de cœur et non pas sur tout ce qu'il y a à faire si on veut plaire à Christ. D'accord ? Ce ne sont pas des choses à accomplir. Mais si tu cherches à connaître Christ, comme il le souligne, et si tu t'approches de lui, il va en découler une chose, c'est que tu rentres dans ce qu'il a préparé pour toi. Et rentrant dans ce qu'il a préparé pour toi, tu vas le vivre et l'accomplir. Mais ce n'est que la conséquence de ce que tu auras vécu auparavant. Tout ce cheminement-là, toutes ces qualités qu'il énumère, tu vas d'abord être comme ceci, puis comme cela, et tu vas rajouter, et tu vas... Ce ne sont pas des actes à accomplir, ce sont des qualités de cœur qui permettront à ces actes de s'accomplir par la suite. Tu comprends ? Non ? Ou alors je prêche en grec, là. Ce sont ces qualités de cœur qui vont engendrer les œuvres que tu vas vivre. Et le christianisme étriqué, entonnoir, il te dit, ah, maintenant tu es chrétien, d'une part, il ne faut plus faire ci, ça, 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 et encore ça, mais en plus, si tu veux être un bon chrétien, il y a ça que tu dois faire, plus ça, puis encore ça, et tes loisirs, ben, tu iras, parce qu'il y a ça encore à faire. Ben, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben, tu lâches, t'en peux plus, t'en as marre, parce qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de plénitude, il n'y a pas d'épanouissement. Mais quand tu rentres dans ce que Christ a préparé, que tu sais de quoi tu es sauvé, de quoi il t'a pardonné et tout ça, tu n'envisages plus la vie de la même manière. C'est pas possible. Et quand tu commences à dire, ah là, bon, il va falloir que... Ah, j'avais prévu ça, mais il y a... tu reviens en arrière à la case départ. Souviens-toi. Tu étais perdu. Tu avais un pied dans la tombe et l'autre sur une savonnette. Tu étais perdu. Tu allais tomber. Et il t'a chopé et il t'a dit, mais non, tu ne mourras pas, tu vivras. J'ai un bon projet pour toi. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur vient nous chercher. Je vais lire deux versets, j'arrête là. C'est dans Parole vivante, on ne va pas les afficher parce que je voudrais que vous les écoutiez. Tite 2, verset 14, notez-le. Ne s'est-il pas livré lui-même pour nous afin de payer la rançon de toutes nos injustices et de nous racheter ainsi de l'asservissement au péché. Satan te dira, c'est pas un asservissement le péché, c'est tu t'éclates. Dans le péché, tu t'éclates. Il n'y a pas de limite, non. L'autre t'attend au tournant, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Bon nombre de ceux qui nous ont quittés étaient partis... d'une manière orgueilleuse, avec le sourire aux lèvres. Bon nombre d'entre eux, nous savons les années passant ce qu'ils sont devenus. La joie, elle n'est plus au rendez-vous, là. Il a payé la rançon de toutes nos injustices et de nous racheter ainsi de l'asservissement au péché, en vue de se créer un peuple purifié du mal, qui lui appartiennent tout entier et se passionnent pour l'accomplissement d'œuvres bonnes. C'est beau ça, non ? Il y a de la joie là, de l'enthousiasme. Éphésiens 2, 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Un texte sur lequel nous, sur lequel nous passons rapidement, c'est que c'est au début du verset 10, quand il dit « Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir ». Recréer, ça veut dire que quand Christ nous sauve, il n'arrange pas, il ne répare pas une épave, hein ? Ce n'est pas un collectionneur d'épaves, hein, le Seigneur. Et il dit ça, c'est pourri, tellement pourri que je vais passer trop de temps à le réparer. Rebut, je crée un homme nouveau. Créer nouveau. Notre tendance et notre homme charnel a tendance toujours à se raccrocher à cette épave. Nous sommes toujours tributaires de ce que nous avons vécu dans le passé. Il est toujours en train de faire partie de notre présent. Mais quand le Seigneur dit qu'il nous a recréés, ça veut dire qu'il a fait une croix sur le passé. J'ai créé un homme nouveau. Oui, mais quand même, j'ai bien des souvenirs de mon ancienne vie. Je dis oui, mais ces souvenirs-là n'ont plus aucune forme de pouvoir sur ta vie aujourd'hui. Ils sont complètement anéantis par cette recréation en Jésus-Christ. Tu ne peux plus être tributaire d'un passé qui te torture, qui te fait couler et qui te fait croire qu'au détour du chemin, tu vas, si tu ne réalises pas que tu es recréé, eh bien, tu vas traîner tes casseroles. Ce passé-là, il a toujours une influence sur ton présent. Non, Christ nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Ça, c'est un projet. Peut-être vous pouvez dire amen. C'est pas obligé, hein. J'arrête là, je vais vous laisser une phrase que je trouve intéressante, que j'ai eue ou j'ai chopée je ne sais pas où. Je vous la donne. J'ai tellement mal écrit le nom de l'auteur que je ne vous le donnerai pas. Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous savez pourquoi. D'accord ? Notez-le. Parce que ça, ça parle d'avenir. Qu'est-ce que tu avais dit ? Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né, et il y en a plusieurs qui aujourd'hui vont naître de nouveau. Et ensuite, le Seigneur va leur montrer pourquoi ils sont nés. Amen. Que le Seigneur nous bénisse dans ces temps. Que ce soit une belle journée. Nous allons prendre la Sainte Cène et